Monsieur, bonsoir. Il est 15h à Washington, 20h à Kinshasa. Un point sur l'actualité avec Abdourahmane Dia. La République démocratique du Congo a annoncé ce dimanche le report d'un mini-sommet de 5 chefs d'État sur la sécurité dans la région des Grands Lacs, auquel le Burundi avait déjà refusé de participer. Selon Marie Toumba Zeza, ministre congolaise des Affaires étrangères, le report s'explique par l'Assemblée générale des Nations unies qui s'ouvre mardi à New York. Tous les chefs d'État sont préoccupés par la préparation de leur participation. Le Burundi estime pour sa part prioritaire, dans un premier temps, l'organisation d'une rencontre bilatérale au niveau ministériel avec la RDC. Au Mali, quoique dans les discussions sur la transition, le mouvement du 5 juin qui a mené la contestation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta a rejeté la charte de transition soutenue par la junte. La coalition, composée d'opposants politiques, de chefs religieux et de membres de la société civile, dénonce la volonté d'accaparement et de confiscation du pouvoir au profit des militaires. Les experts désignés par la junte ont adopté vendredi une charte de transition au terme de 3 jours de discussion à Bamako. Le M5-RFP estime que le document final ne reflète pas les points de vue et les décisions du peuple malien. Cette charte prévoit une transition de 18 mois conduite par un président désigné par un comité établi par la junte. En Libye, des manifestants ont mis le feu au siège du gouvernement parallèle installé à Benghazi, deuxième ville de la Libye, provoquant d'importants dégâts matériels selon une source de sécurité. Les policiers et les pompiers sont rapidement arrivés sur les lieux pour tenter de maîtriser les flammes. À Al-Marj, à une centaine de kilomètres à l'est de Benghazi, des policiers ont tiré à balles réelles pour disperser les manifestants. La Libye est déchirée par un conflit entre deux pouvoirs rivaux. Le gouvernement d'union nationale, reconnu par l'ONU, est basé à Tripoli, et un gouvernement incarné par le maréchal Haftar qui règne sur l'est et une partie du sud. Le président Donald Trump a fait savoir qu'il se rendrait ce lundi en Californie pour prendre la mesure des incendies qui ravagent l'ouest des États-Unis, où 27 personnes ont perdu la vie. Les incendies ont déjà brûlé plus de 2 millions d'hectares depuis le début de l'année. Monsieur Trump doit rencontrer des responsables des services d'urgence en première ligne pour combattre ces feux. Avec Portland, les villes de San Francisco et Seattle figuraient parmi celles ayant le taux de pollution le plus élevé au monde, samedi, selon le classement établi par la société AQR. Les Palestiniens ont appelé à des manifestations mardi pour dénoncer l'accord de normalisation qui doit être signé le même jour à Washington entre Israël et deux pays du Golfe, les Émirats arabes unis et Bahreïn. Dans un communiqué conjoint, plusieurs factions palestiniennes ont appelé à un jour du refus avec des manifestations populaires dans les territoires palestiniens, mais aussi devant les ambassades des États-Unis, d'Israël, des Émirats arabes unis et de Bahreïn. Le gouvernement afghan et les talibans sont dans le vif du sujet au deuxième jour de leur pourparlers de paix à Doha, avec comme sujet principal la recherche d'un cessez-le-feu permanent. Lors de la cérémonie d'ouverture hier, le gouvernement et ses alliés, y compris les États-Unis, ont insisté sur un cessez-le-feu, mais les talibans n'ont pas fait mention d'une trêve. Toutefois, le responsable du processus de paix du côté gouvernement a affirmé que les talibans pourraient bien accepter un cessez-le-feu en échange d'une nouvelle opération de libération de prisonniers. 5 000 insurgés ont déjà été relâchés par Kaboul contre 1 000 000 des membres des forces afghanes dans le cadre de cet échange. Le ton est encore monté entre Londres et les membres de l'Union européenne à la veille de la reprise des négociations commerciales post-Brexit. L'Irlande dénonce ce qu'elle appelle les fausses accusations du Premier ministre britannique Boris Johnson, selon lesquelles l'Union européenne menace d'instaurer un blocus en Irlande du Nord. L'escalade des tensions de cette semaine entre les ex-alliés autour de la volonté du Royaume-Uni de revenir sur l'accord signé, donc déjà signé. Fin de ce bulletin d'information. Restez en compagnie des programmes de VO.
Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique. Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir, fidèles auditrices et auditeurs de VOA Afrique. Bienvenue dans ce dialogue des religions. Eric Manila-Kiza avec vous ce soir. Lionel Nounadia-Gahima assure la mise en onde. Dimanche, les chrétiens du monde entier ont célébré la Pentecôte. Cette fête célèbre la venue de l'Esprit Saint, promis par Jésus-Christ, et répandu sur les apôtres. La Pentecôte a lieu 50 jours après Pâques. Pour les chrétiens, les disciples de Jésus reçoivent l'Esprit Saint qui les pousse à annoncer que le Christ est vivant. C'est la découverte incroyable d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu, donnée en surabondance au baptême. À la même occasion, les Juifs commémorent le jour où Moïse reçoit les 10 commandements. Dans un instant, deux invités pour nous éclairer dans cette discussion. Encore une fois, bienvenue. Dialogue des religions accueille ce soir Madame Nathalie Nyamoya depuis Montréal au Canada. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Eric Manila-Kiza.
Ici aux États-Unis, à Boston, dans l'état du Massachusetts, le père jésuite Marcel Winneza. Bonsoir mon père.
Bonsoir Eric, merci pour l'invitation et merci à nos auditeurs.
Voilà, la Pentecôte célébrée dans une situation particulière. Une situation de confinement. Nathalie, comment vous avez célébré cette fête?
Bien, ici à Montréal, on est toujours confinés, surtout qu'on est dans une région où on a eu beaucoup de cas de coronavirus. Donc ça a été plutôt très calme à la maison, mais en se rémémorant de ce jour qui est pour les chrétiens près du monde. Donc ça a été plutôt dans le calme et en famille.
Mon père, est-ce que vous avez eu l'occasion de dire votre messe?
Oui, j'ai célébré la messe avec la communauté rwandaise, burundaise, sur Internet. On avait à peu près 50 personnes qui ont venu célébrer la messe. Et c'était un signe qu'on ne peut pas confiner l'Esprit de Dieu. Et l'Église et Dieu ne peut pas être confiné.
Dans les Actes des Apôtres, Jésus dit, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mon Père, qui est l'Esprit Saint? Qui est l'Esprit de Dieu?
Et l'Esprit Saint, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité. Et les chrétiens croient en un Dieu de communion, un Dieu de relation, qui est Père, Fils et Esprit Saint. Et à la Pentecôte, nous célébrons précisément le Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint, c'est le symbole de l'amour qui unit le Père et le Fils. Et ce qu'il apporte à l'Église, c'est qu'il nous met en mouvement pour aller proclamer l'Évangile.
Ça, c'est l'Esprit de Dieu.
L'Esprit de Dieu.
Nathalie?
Oui, je vais toujours aborder dans le même esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne de la Sainte Trinité. Souvent, on en parle de la troisième personne parce qu'elle est la moins connue réellement de la Bible. Mais c'est Dieu qui descend vivre avec les gens. Quand on regarde la vie des apôtres avant le Saint-Esprit, après le Saint-Esprit, leur vie était différente. Donc, ils manifestent le lâcher-prise lorsqu'ils descendent dans la vie de quelqu'un, le lâcher-prise de vouloir faire les choses par soi-même, de vouloir tout accomplir dans ses propres forces et d'appréhender la vie différemment. Donc, c'est un Dieu qui vient t'aider chaque jour dans tous les domaines de ta vie. Mais c'était la première fois qu'il descendait réellement sur les êtres humains.
L'Esprit est-il en tous et comment tout être humain en bénéficie dans son quotidien, athée, musulman ou limite, Nathalie?
Alors, si on se conforme à la Bible, parce que le Saint-Esprit est en rapport avec la Bible, on voit que Jésus, avant qu'il puisse remonter au ciel, avait dit à ses disciples, aller attendre le Saint-Esprit. Et ces gens-là étaient là dans un esprit de prière. Alors, le Saint-Esprit ne descendra que pour celui qui croit en lui, pour celui surtout qui pense que Jésus-Christ est son Seigneur et son Sauveur. Alors, du moment où tu reçois Jésus dans ta vie, je suis convaincue que tu as le Saint-Esprit, même si des fois on ne le sent pas. Donc, j'aime surtout la définition hébraïque du mot esprit ou Saint-Esprit. C'est ruach, ça veut dire le vent, le souffle ou même le vide. Donc, on ne peut pas toucher le vide, on ne peut pas toucher le vent, mais on voit ses effets. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas le Saint-Esprit physiquement parlant, comme les apôtres voyaient Jésus, mais c'est parce qu'il est là. Donc, pour ceux et celles qui croient que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, je crois qu'ils ont le Saint-Esprit en eux.
Mon père, est-ce que son explication est-elle similaire de votre messe de dimanche?
Le message de la messe de ce dimanche, c'est que l'Esprit Saint, c'est le sacrement de la présence divine dans ce monde. Le sacrement, ça veut dire la présence réelle, parfaite dans le monde, qui n'est pas seulement liée à une église quelconque, mais le Dieu qui ne peut pas être, qui n'est pas petit, un Dieu grand, que nous appelons un Dieu mystère. Et quand nous disons Dieu mystère, ça ne veut pas dire qu'on est ignorant, on ne connaît pas, ça veut dire que tout ce que nous disons de Dieu, Dieu demeure encore plus grand. Et il nous invite à la transcendance. Alors, pendant la messe que nous avons célébrée, les gens étaient chez eux, dans les familles, regroupés comme des amis, là où ils sont. Cela aussi montre le Dieu qui travaille, même quand on n'est pas dans des lieux, disons, de culte, là où nous sommes habitués à célébrer dans des églises. Dieu est partout. Même dans l'évangile de Jean, c'est lui qui nous dit « L'Esprit souffle là où il veut », dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, du verset 8. Donc, ce qui veut dire que l'Esprit de Dieu travaille, il est à l'œuvre partout, là où les gens se rencontrent. Et on ne peut même pas proclamer Jésus sans que tu ne sois inspiré par l'Esprit de Dieu, nous dit Saint Paul. Voilà donc ce qui anime ce Dieu Esprit Saint qui transcende les barrières de notre temps, les barrières ethniques et les barrières géographiques. Dans la lecture que nous avons eue ce dimanche, on nous a dit que quand l'Esprit est descendu sur les apôtres, il y avait des gens de la Mésopotamie, de l'Égypte, il y avait des gens de la Cappadoce, donc de tous les coins. Et les actes des apôtres nous disent que tout le monde les entendait dans leur propre langue. Voilà donc l'Esprit qui brise les barrières. Et même l'accent n'est plus important. L'essentiel est que les gens comprennent. Donc cet Esprit qui, en fait, nous fait apprécier la dignité de la différence. Et ça, c'est un point très important dans le monde dans lequel nous vivons. La dignité de la différence, et surtout aux États-Unis, célébrer la fête de la Pentecôte au moment où il y a beaucoup de crises, non seulement la crise de Covid, mais aussi la crise de race.
On va y revenir, mon père. Nathalie, le livre des Actes des Apôtres nous révèle que la première communauté chrétienne a fait l'expérience de l'effusion de l'Esprit, non seulement au jour de la Pentecôte, mais en bien d'autres circonstances. Qu'est-ce que l'effusion de l'Esprit ?
Alors, c'est une question assez particulière parce que quand on est en train effectivement de lire les actes des apôtres, on voit que c'était un groupe de 120 personnes qui attendaient dans une chambre, ce qu'on appelait une chambre haute, pour prier. C'était une habitude des Juifs de pouvoir se retrouver ensemble et d'aller dans ce qu'on appelait la chambre haute pour prier. Alors, Jésus leur avait dit, vous attendrez le Saint-Esprit. Mais ils ne savaient pas à quoi s'attendre. C'est très difficile de pouvoir attendre une personne que l'on ne connaît pas. C'est franchement un acte de foi à dire on attend, mais on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais en fait, on voit ici dans les actes des apôtres que c'est plus une expression, une manifestation de la présence de Jésus-Christ, ou plutôt de la présence du Saint-Esprit. Je me dis que quand vous rencontrez une personne qui vous est chère et que vous n'avez pas revue depuis un long moment, certaines pourront pleurer, certaines pourront crier de joie, certaines pourront être scotchées de scotchées et ne même pas être capables de parler. Et c'est ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit descend, ou le baptême du Saint-Esprit pour certains, c'est qu'on ressent, tellement sa présence qu'on est, bouche bée. Certains pleureront, d'autres crieront de joie, d'autres exprimeront des choses extraordinaires. Et l'une des choses qui a été particulière ce jour-là, c'est que Dieu leur avait permis de parler dans des langues étrangères, de façon à ce que la diaspora juive qui était présente à Jérusalem pour célébrer une fête juive, elle a entendu ces gens qui étaient là, qui étaient nés là, qui commençaient à parler une langue, leur propre langue d'origine. Alors c'est comme moi qui parlerais une langue, le lingala, alors que je n'ai jamais vécu au Congo. Donc ils étaient très surpris. Donc voilà, l'effusion du Saint-Esprit, c'est très difficile de le manifester, de l'expliquer, mais on en voit les manifestations.
Père Marcel.
Oui, on pourrait ajouter quelque chose, c'est que l'effusion du Saint-Esprit, du moins dans l'Église catholique et même l'Église orthodoxe, s'est bien manifesté dans la célébration des sacrements et au sacrement du baptême. Là, nous recevons l'Esprit Saint. Et c'est même bien précis dans le sacrement de la confirmation et qui nous envoie en mission. Et même dans les autres sacrements de l'Église, un lieu plus précis où on célèbre, on reçoit la mission et on est encouragé, la peur n'y est plus, pour aller proclamer l'amour de Dieu pour tout l'univers.
Vous suivez le dialogue des religions, notre discussion continue sur VO Afrique et voafrique.com.
À l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Disent comment ils ont vécu la Pentecôte en période de confinement. Yamadamos Moussaou dit, au cœur de tout vouloir, les vrais chrétiens de la ville de Mwene Ditu, dans la province de Lomami, en RDC, ont violé l'ordonnance présidentielle interdisant le rassemblement de plus de 20 personnes. Ils ont célébré en cache-cache. Daniel Ndalan Kongolo, on a justement confiné le corps, non pas l'esprit. Salomon Mungindu, difficile période. La veille, j'ai commencé à souhaiter aux amis sur les réseaux sociaux. Le dimanche, j'ai utilisé le missel, je ne sais pas ce que c'est, pour célébrer avec ma famille. Et Ben Benoît Congolais, lui, il pose une question. Célébrer, oui, et après avoir commémoré, qu'est-ce qu'un vrai chrétien doit garder, Nathalie?
Alors, je pense que la Pentecôte, c'est un rappel de ce que le Saint-Esprit a fait dans la vie des chrétiens. C'est de se rappeler que chaque jour, c'est lui qui nous donne la force de pouvoir avancer et de proclamer la paix que Jésus est venu annoncer sur la terre. Lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, il y a un avant et un après Pentecôte. On voit que, par exemple, Pierre, qui était un apôtre qui était très, très maladroit, qui avait même eu peur quand Jésus avait ressuscité, on le voit, quand le Saint-Esprit descend sur eux, quand la Pentecôte se manifeste, il commence à parler d'une façon très libre et d'une façon pratiquement autoritaire, et 3000 personnes sont convaincues et suivent le mouvement chrétien, ce qui à l'époque était carrément quelque chose d'extraordinaire. Donc, moi, quand je suis en train de me rappeler de le baptême, plutôt la Pentecôte, ça me rappelle que l'œuvre que je dois accomplir dans la vie ou dans la vie de mes voisins, de mes amis, ce n'est pas quelque chose qui doit être attitré personnellement, mais qui doit venir par la force du Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas aimer nos voisins, on ne peut pas aimer nos familles convenablement si réellement on n'a pas la force qui vient du Saint-Esprit.
Si Pâques symbolise la commémoration de la résurrection du Christ, la Pentecôte signifie l'alliance renouvelée entre Dieu et son peuple. Père Winesa, voudriez-vous nous parler de cette nouvelle alliance?
La nouvelle alliance, c'est que Dieu demeure toujours fidèle. Voilà un Dieu qui nous aime, qui décide même d'envoyer son Fils. Il est devenu un parmi nous. Dans l'évangile de Saint Jean, il nous dit qu'il a pris chair et il a demeuré parmi nous. Donc, cela donne la valeur non seulement à la personne humaine, mais même à toute la création. Donc Dieu est amour. La meilleure définition qu'on peut donner à Dieu, sachant que toutes les définitions sont limitées, mais la meilleure définition qu'on peut donner à Dieu, c'est que Dieu est amour. Dans les actes de Jésus, dans le ministère de Jésus, et voilà, c'est même ce que cet esprit fait à l'église. Il nous envoie en mission. Il trouve les apôtres quand ils étaient confinés. En fait, la Pentecôte, même au moment où nous vivons, ça nous rappelle que les disciples étaient confinés, mais ils n'avaient pas peur, comme ma chère sœur vient de le dire. Donc, ce Dieu qui nous trouve, même dans des occasions difficiles, et continue à montrer son amour fidèle.
Nathalie, la Nouvelle Alliance.
Alors, pour parler de la Nouvelle Alliance, il faut d'abord comprendre qu'il y a une ancienne alliance. On parle d'alliance surtout pendant l'Ancien Testament, donc c'est quelque chose qui est très juif, très israélite. Avant que cette première alliance existe, Dieu n'avait, selon la Bible, pas de relation avec un être humain. Et il a trouvé sur la terre un Abraham qui a accepté de le suivre sans réellement le connaître. Et Dieu a été touché par ce qu'il a fait. Il a fait une alliance avec lui. Mais seulement avec le temps, les descendants d'Abraham ont voulu marcher selon un peu le mode extérieur. Donc, ils voulaient vivre comme les autres royaumes. Et Dieu leur a donné la loi de Moïse, une alliance sur laquelle était basée « Vous faites le bien, je vous bénis. Vous faites le mal, vous en avez les conséquences. » Mais pendant des siècles, ça n'a pas marché. L'homme est incapable viscéralement de pouvoir accomplir le bien, même s'il essaie le fait faussement. Mais la nouvelle alliance, c'est que Jésus est venu lui accomplir cette loi. C'est pour ça qu'à la croix, il a dit « Tout est accompli ». Et celui qui reçoit Jésus accepte cette nouvelle alliance parce que c'est la seule personne qui a pu accomplir ce que la loi de Moïse exigeait. Donc cette nouvelle alliance, elle est extraordinaire pour le chrétien parce qu'elle base notre foi en Jésus qui nous donne la capacité via le Saint-Esprit, de pouvoir accomplir les bonnes choses. Donc voilà, pour moi, ce que c'est la Nouvelle Alliance.
La célébration de la Pentecôte fut associée au souvenir de la transmission des tables de la loi à Moïse, c'est-à-dire à la fondation de la religion juive. Quelle est la particularité de cette religion, Père Wiesel?
En fait, c'est que Dieu qui entre en relation avec un peuple particulier, il nous montre que ce n'est pas un Dieu seulement transcendant, mais qui descend, un Dieu imminent, qui descend, qui entre en relation avec un peuple élu. Et ce peuple élu s'étendra maintenant pour toutes les nations, sera au pouvoir à la fête de la Pentecôte. L'alliance est étendue. Ce n'est plus seulement le peuple juif, mais c'est tout l'univers, la Cappadoce, la Mésopotamie, la Judée. Donc voilà tout l'univers qui entre maintenant dans cette alliance, dans cette nouvelle alliance, d'abord proclamée par Jésus, maintenant encouragée par l'Esprit Saint. Donc il y a ce lien entre l'Ancien Testament, là où il y a le peuple bien élu, le peuple juif, et qui n'est pas abrogé par la nouvelle alliance en Jésus-Christ, et maintenant continue dans l'Église. Sous l'Esprit Saint.
Nathalie, vous avez parlé de la diaspora juive. Je ne sais pas si c'est lié.
Par rapport à la religion juive, c'est que les juifs avaient contracté une alliance, comme notre père vient de le dire, par rapport à Dieu. C'était une religion communautaire. Donc le bien, le peuple faisait le bien ensemble. Et chaque fois qu'un roi ou certains prophètes ou certaines personnes n'agissaient pas correctement, il y avait des problèmes qui s'abattaient sur Israël. Et c'est pour ça que pendant des années, des siècles et des siècles, c'est un peuple qui revenait vers Dieu, qui repartait, qui revenait, qui repartait. Et à une certaine période, elle a carrément été dispatchée dans la plupart des pays de cette région, de la région de Moïse, enfin, plutôt du au-delà d'Israël. Et ça a fait que certains peuples continuent à prier, les juifs, on les retrouve en Russie, partout ailleurs, mais c'est certains peuples qui ont toujours gardé cette loi de Moïse d'une façon communautaire, collective. Voilà. Leur salut était plutôt un salut collectif.
Le week-end de la Pentecôte est annonciateur de beaux jours. Il est aussi rappelé que la présence de l'Esprit dans nos cœurs nous donne un souffle nouveau pour lutter contre le mal, pour préserver dans le chemin de la prière. Ce n'est pas ce que nous vivons actuellement, mon père.
Ça, c'est sûr. Et dans le contexte dans lequel nous vivons maintenant avec la crise de COVID-19, et ici même aux États-Unis avec la crise de race, si je pourrais dire, la crise d'injustice, cela nous provoque et nous fait peur. Mais ceux qui sont habités par l'Esprit Saint ne sont pas esclaves de la peur. Et nous le voyons précisément à la Pentecôte, les disciples qui avaient peur, quand ils ont reçu l'Esprit Saint, ils sont encouragés, ils proclament. Et cela veut dire quoi? Maintenant, dans le contexte où nous sommes, quand il y a l'Esprit Saint, il y a une invitation à une certaine à la lutte pour la justice. Il y a une invitation à l'amour, et un amour inconditionnel, et à trouver que Dieu habite dans chaque personne, créé en image de Dieu. Nous voyons, nous avons ça dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, versets 5, 27 et 28. Donc, Dieu qui créa toute personne en image de Dieu. Donc, chaque fois que la personne humaine perd sa vie dans des circonstances d'injustice, c'est en fait un reniement de Dieu. Donc, le contexte dans lequel nous nous trouvons, surtout ici aux États-Unis, mais même le contexte de COVID, c'est une invitation à ne pas être des esclaves de la peur. Malgré le confinement dans lequel nous sommes, on est appelé à trouver le sens de l'amour et de l'harmonie. Et cela, c'est une invitation même pour les familles, comment trouver un moment précieux pour prier ensemble, émis par l'Esprit Saint. Trouver le moment de partage, trouver les fruits de l'Esprit Saint dont Saint Paul nous parle dans sa lettre aux Galates, au chapitre 5. Donc l'amour, la joie, la persévérance, la maîtrise de soi. C'est une bonne lettre auquel j'invite les chrétiens à lire. Les fruits de l'Esprit Saint. En fait, ces fruits nous interpellent à faire un examen de conscience. Quel est l'Esprit qui nous habite? Et si nous sommes habités par l'Esprit de Dieu, il y a l'amour. Là où il n'y a pas d'amour, l'Esprit de Dieu nous interpelle à nous examiner et à nous mettre devant un miroir pour savoir si vraiment nous n'avons pas de mauvais esprits. En fait, un moment de discernement des esprits, comme nous disent les jésuites, quel est l'Esprit qui nous anime?
Nathalie, comment cette annonciation de beaux jours, comment on peut véhiculer cette annonciation dans les moments que nous vivons actuellement?
D'abord, bon, ça c'est un avis personnel. Hein. La Pentecôte est venue pour pouvoir renforcer, édifier les gens, les chrétiens, d'une façon particulière. Mais d'ailleurs, lorsque vous voyez la vie après, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, ça n'a pas été une vie facile, ça a été une vie de combat. Donc, pour moi, le Saint-Esprit ne vient pas arranger les choses, mais il vient t'équiper pour pouvoir mieux agir, mieux comprendre, mieux aimer. Ce n'est pas que les choses vont être très beaux, mais tu vas le voir sur un bel angle, parce que des fois, on peut être vraiment attaqué, être fatigué émotionnellement, mais c'est avec le Saint-Esprit, on a une capacité beaucoup plus différente de pouvoir gérer les choses. Voilà.
Avant de nous quitter, on peut demander de l'Esprit Saint dans ce temps de crise et aborder la prière de Salomon. Père Winesa.
La prière de Salomon, c'est une très bonne prière que Salomon adresse à Dieu. Voilà qu'il est devant un peuple immense et il se pose la question, moi, comment est-ce que je peux diriger ce peuple avec la complexité de ce peuple? Et alors il dit, accorde, Seigneur, à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Voilà, il voit le problème qu'il a, comme les problèmes que nous avons, les problèmes de COVID, et le problème des crises mondiales que nous avons. Nous demandons au Seigneur de nous donner la grâce de l'intelligence et du discernement pour aider le peuple de Dieu.
Nathalie, cette demande de Salomon plus au Seigneur.
Oui, oui, c'est une prière très sage pour moi. J'aime beaucoup cette prière parce qu'elle nous montre que nous sommes faibles, que nous ne sommes pas capables, qu'il n'y a que Dieu pour pouvoir nous aider à accomplir, à aller plus loin et surtout à aider notre prochain. Et je me dis que cette parole est vraiment complémentaire avec la Pentecôte parce que c'est le Saint-Esprit qui descend sur nous pour pouvoir nous donner la capacité d'aimer dans ces jours mauvais. Dieu nous aide surtout dans des moments très mauvais dans lesquels traversons Covid, ainsi que toutes ces crises socio-économiques qui sont là. Et je me dis que c'est vraiment une prière complémentaire avec la Pentecôte.
Je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.
vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion.